Les outils numériques, la réalité virtuelle ont pris une place considérable dans nos vies ces dernières années en envahissant notre quotidien. Les écrans donc ont transformé profondément les relations humaines. Avec mes invités cet après-midi, nous allons explorer les usages que nous faisons des écrans informatiques pour voir de quelle manière justement le monde virtuel influence notre psychologie et nos besoins humains. C'est le dossier de la Tête au Carré en partenariat avec le Cercle Psy. Et j'attends vos questions, vos témoignages, vos messages, franceinter.fr et le mot-clé la TAC. Plusieurs études viennent de paraître sur l'ampleur de la disparition de la biodiversité terrestre et c'est aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, une étude française et une étude américaine et à chaque fois la conclusion est la même. La sixième extinction de masse est une réalité et l'homme est responsable de 98 extinctions sur 100. On en parle avec les auteurs français dans un instant et vos questions sur Twitter.
Violaine Ballet réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Thomas Delosier.
La Tête au Carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et dans le dossier, dans quelques minutes, un éclairage donc psychologique pour comprendre l'influence des écrans, du virtuel, tout cela sur l'être humain. Mes invités pour en parler, les psychologues psychanalystes Sylvain Missonnier, Michael Stora et mon confrère du Cercle Psy, Jean-François Marmion. Bonjour.
Bonjour.
À tous les trois, bienvenue.
Bonjour.
Sylvain Missonnier, est-ce qu'avec l'explosion de l'usage des écrans informatiques, on peut considérer aujourd'hui que l'être humain est passé dans une nouvelle ère au point d'être qualifié d'homo virtualis?
Mais oui, homo virtualis et un homo virtualis qui existe depuis les grottes de Lascaux, mais qui aujourd'hui prend effectivement une importance tout à fait essentielle, ouais, avec la mise en exergue d'un certain nombre d'éléments comme les écrans. Mais j'insiste d'emblée là-dessus, c'est une vieille histoire dont nous avons, ouais, à explorer aujourd'hui le décor actuel.
Oui, à Pechmerle en particulier, lorsque, ouais, l'homme a posé ses mains sur les parois, voilà, on était déjà dans le monde virtuel d'une certaine,
assurément,
manière.
Assurément, homo virtualis.
Michael Stora, notre, ouais, société donc a adopté, c'est vrai qu'une rapidité absolument inouïe, les écrans et le monde virtuel. Et pourtant encore de nombreuses peurs se manifestent un petit peu partout. Comment vous expliquez-vous ce paradoxe?
J'ai l'impression que l'Internet reste un espace de projection, une nébuleuse, et que le fossé générationnel continue à exister encore. Et c'est évident que ça arrange bien, paradoxalement, les adolescents, que les parents s'inquiètent. Et on commence à avoir justement des crises d'adolescence virtuelles.
Bon, on va discuter de tout ça avec vous, Jean-François Marmion. Certaines personnes, justement, préfèrent aujourd'hui les machines aux relations sociales directes. Vous montrez dans le Cercle Psy que le rapport affectif peut devenir carrément extrême dans certains cas.
Oui, et d'ailleurs, je pense qu'on en est qu'au début. Souvenez-vous du regard, souvenez-vous du web d'il y a une vingtaine d'années, hein, 97 en gros.
C'est la préhistoire là aussi.
C'est la préhistoire. Vous vous souvenez, il y avait un modem qui faisait énormément de bruit, on ne pouvait pas téléphoner en même temps, il n'y avait pas d'image. Quand une image était téléchargée, on voyait juste un rectangle blanc avec une croix rouge en travers pour dire attendez, ça arrive. Et je pense que le net qu'on vit aujourd'hui nous paraîtra dans 15-20 ans aussi anecdotique que celui de la fin des années 90.
Mais du coup, on peut vraiment préférer ces relations avec les machines qu'avec des êtres humains?
Alors ça, c'est la thèse de Sherry Turkle, qui est psychologue et anthropologue au MIT. Elle trouve qu'on a tendance à déshumaniser nos relations en ligne, mm-hmm, on les désincarne, elles deviennent plus superficielles. En revanche, on s'investit de plus en plus dans la technologie, dans les machines et bientôt, dit-elle, ouais, dans les robots.
Allez, on fera une psychopathologie du virtuel, donc avec vous dans quelques minutes et avec bien sûr les messages et les témoignages des auditeurs. 7% des espèces terrestres auraient déjà disparu. C'est une équipe française du Muséum National qui publie donc ce chiffre. Un travail qui vient s'ajouter à d'autres études, dont l'une américaine, publiée vendredi. Mais tous ces travaux vont dans le même sens. La sixième extinction de masse, c'est déjà une réalité. Claire Régnier et Benoît Fontaine, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous faites tous les deux partie de l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité au Muséum. Et vous êtes les auteurs donc de cette publication française. Et vos résultats sont assez impressionnants. Benoît Fontaine, alors que l'Union internationale pour la conservation de la nature annonce celle d'une perte de 1% de la biodiversité, vous prétendez que c'est pas loin de 10% justement des espèces qui auraient déjà disparu. Comment vous expliquez cette différence? Et puis on va rentrer après dans vos calculs.
La différence, elle réside dans le fait que la liste rouge de l'Union mondiale pour la nature, elle se base sur des estimations qui sont très précises et qui reposent sur les espèces pour lesquelles on a des données, donc principalement les grandes espèces, les grands mammifères, les oiseaux. Mmh. Et pour cela, on sait assez bien ce qui se passe. Quand le dernier rhinocéros blanc aura disparu, on le saura le jour même probablement. Et donc sur ces espèces, on sait bien ce qui se passe et on sait qu'on a à peu près
1%. Donc là, vous êtes d'accord avec ce chiffre.
Voilà. Mais ces espèces, c'est 15 000 espèces au total. Et il y a à peu près 2 millions d'espèces connues. Il y en a entre peut-être 5 et 10 millions qui existent. Mmh. Et tout le reste, on n'a pas les moyens de savoir ce qui se passe. Et donc nous, on fait des projections, à la fois à dire d'experts ou par des modèles mathématiques, et on arrive à des chiffres beaucoup plus élevés.
Donc ce sont les maths qui parlent, c'est ça?
Les maths et les experts. Et ce qui est remarquable dans les travaux qu'on a fait d'ailleurs pas juste nous, hein, je tiens à dire qu'on a été associé avec des mathématiciens de l'université Pierre et Marie Curie, avec un chercheur de l'université de Hawaï. Et donc les travaux qu'on a fait montrent que ce que disent les maths, c'est la même chose que ce que disent les experts quand on s'intéresse à un échantillon d'espèces précis.
Donc il y a cette concordance.
Il y a vraiment une concordance qui valide les résultats.
À cette conclusion. Axel.
Oui, justement, Claire Régnier, pour faire ce travail, vous avez travaillé sur un groupe d'invertébrés particuliers, les mollusques terrestres. Pourquoi vous avez choisi ce groupe qui comprend les escargots?
Et qui paraît assez restreint quand même, pour extrapoler à l'ensemble de la faune.
Bah, c'est déjà, les mollusques, c'est 85 000 espèces, donc c'est pas si restreint que ça.
Pardon madame.
Mais oui, en fait, on s'est basé sur les mollusques parce qu'on a une petite facilité avec les mollusques, c'est que les mollusques, quand ils disparaissent, ils laissent des coquilles derrière eux. Mmh. Et ces coquilles, on est capable de dire sur une fourchette, ça fait tant de temps que l'espèce a disparu, et on est capable de retrouver des coquilles dans les registres fossilifères, etc.
Donc vous êtes bien documenté, en fait, c'est ce que vous voulez nous dire.
On est relativement bien documenté par rapport aux autres invertébrés. Mmh. Les nématodes, par exemple, on sait rien.
Donc c'était une espèce témoin importante pour vous, en tout cas, qui pouvait donner des informations suffisantes pour, là encore, extrapoler à l'ensemble de la faune.
Alors il y a une deuxième facilité, relative facilité avec les mollusques, c'est qu'on peut se baser sur le travail d'énormément d'amateurs et de gens qui vont récolter sur le terrain. Mmh. Et ça, c'est des choses que, pour certains groupes, on n'a pas. Donc c'est relativement plus facile pour les mollusques chez les invertébrés que pour les autres groupes.
Donc l'escargot, c'est vraiment autour de l'escargot que vous êtes concentré?
Oui.
Mais si je peux intervenir.
Oui, bien sûr.
Pas l'escargot, c'est Benoît les Fontaine. Escargots. Ouais. Les mollusques terrestres, c'est 17 000 espèces. Donc on n'a pas basé nos travaux sur une espèce, on a basé nos travaux sur un grand groupe d'espèces qui donne une idée de ce qui pourrait se passer dans le reste de la biodiversité.
Et justement, racontez-nous comment vous avez fait pour estimer de deux manières différentes l'extinction dans ce groupe des mollusques terrestres.
Alors on a produit une liste d'espèces de mollusques de façon aléatoire des espèces du monde entier. Et on a donné cette liste à des experts, les experts dont parlait Claire tout à l'heure, et on leur a demandé de dire pour chacune des espèces de la liste s'ils pensaient qu'elle était encore vivante, s'ils pensaient qu'elle était éteinte, ou s'ils pouvaient pas se prononcer. Et ça en se basant sur leur connaissance d'une région du monde ou d'une famille de mollusques. Et ils sont arrivés, donc on a fait appel à plusieurs dizaines de personnes du monde entier. Et ils sont arrivés à la conclusion que sur l'échantillon, il y avait à peu près 10% des espèces qui étaient éteintes. Mmh. Et puis parallèlement, on a pour les mêmes espèces, on a collecté à partir de la littérature scientifique et à partir des collections des muséums, ce qui est très important dans notre cas, puisqu'il y a les collections des muséums, c'est une mine d'informations énorme. Et on a collecté pour ces espèces toutes les données qui existaient. Et les données qui existent, en fait, en général, c'est des lieux et des dates de collecte. Et ces données sont assez éparses, puisque pour 30% de notre échantillon, la seule information qui existe, c'est la description originale. C'est-à-dire, c'est l'article dans lequel quelqu'un a dit « j'ai une espèce nouvelle pour la science ». Et on ne sait rien d'autre.
Depuis
la description, il n'y a rien d'autre qu'on a... aucune connaissance qui a été produite. Et bref, donc pour toutes ces espèces, on a une série de dates auxquelles on a trouvé l'espèce dans la nature. Et alors, on comprend intuitivement que s'il y a une espèce qu'on trouve, qui a été découverte pour la première fois, par exemple, en 1850, et qui est découverte, qui est collectée dans la nature tous les 10 ans, jusqu'en 1950, et puis plus après, on peut se dire, il s'est passé quelque chose dans les années 50, elle est peut-être éteinte. Une espèce qu'on va trouver tous les 10 ans, des années 1850 à nos jours,
on peut dire qu'elle est toujours là, présente.
Il y a plus de chances, la probabilité qu'elle soit encore vivante est plus importante. Et donc, on a, en utilisant les mathématiques, donc des modèles probabilistes, on a estimé une probabilité que l'espèce soit éteinte en fonction de la répartition des dates à laquelle l'espèce a été collectée.
Alors ça, on comprend bien, effectivement, pour les escargots, hein, puisque ce que vous décrivez, c'est autour des escargots. Mais comment, justement, vous faites le saut pour pouvoir en tirer une conclusion à l'échelle terrestre de toute la biodiversité animale ?
Alors, comme disait Benoît tout à l'heure, ça reste une hypothèse, mais les escargots, comme beaucoup d'invertébrés, en particulier les arthropodes terrestres, donc tout ce qui est insectes, etc., partagent des caractéristiques communes et qui les rendent plus prônes à l'extinction. Ils ont des petites aires de répartition, ils ont des grosses spécificités en matière d'habitat, il y a beaucoup d'espèces endémiques, ils sont petits, ils sont rares. Et ça fait que si on veut projeter, ça donne 7% des espèces probablement éteintes.
Mais vous comprenez qu'on puisse être un peu sceptique justement par rapport à cette extrapolation ?
Bien sûr, on peut être sceptique. Et nous, ce qu'on dit, c'est que le chiffre de moins de 1% des espèces éteintes qui est donné par la liste rouge, il est très en dessous de la réalité.
C'est ça.
Et les mollusques, sur le travail qu'on a fait, on dit qu'il y a 7% des mollusques éteints. Et on fait l'hypothèse que pour le reste de la biodiversité, on est beaucoup plus proche des 7% que des moins de 1% de l'Union mondiale pour la nature.
Et donc, c'est donc l'objet de cette publication.
C'est l'objet de cette publication pour dire que la situation est grave.
Merci beaucoup, en tout cas, Claire Régnier et Benoît Fontaine, parce qu'on avait envie de vous entendre pour bien comprendre justement comment on en arrivait à ce résultat. Axel, avant de se quitter, il reste encore une dizaine de cahiers quiz de la tête au carré à gagner pour passer de bonnes vacances.
Il en reste 11 exactement à gagner. C'est deux cahiers quiz de la tête au carré qui sont en partenariat avec le journal Le Monde, une version adulte, une version junior, avec 300 questions scientifiques. Donc pour les recevoir, c'est simple, vous nous envoyez un dessin ou une photo avec pour thème la tête au carré. Si vous êtes rapide, on vous renvoie les deux cahiers par la poste directement.
Soyez imaginatifs, faites pas simplement des copier-coller de photos par exemple.
On a des beaux dessins déjà, on a fait des beaux dessins sur Facebook.
Pas mal. Voilà, Facebook et Twitter évidemment pour nous rejoindre. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des centaines de millions de hannetons à l'attaque des forêts alsaciennes. Les insectes adultes ont grignoté plus de 15 000 hectares de forêt ces derniers mois et ce sont maintenant les larves qui inquiètent en s'attaquant aux racines des arbres. Pour l'Office national des forêts, c'est un phénomène sans précédent en France et sans explication pour le moment. Par précaution, les quantités de bois destinées aux professionnels ont été limitées afin de laisser la nature retrouver seule son équilibre. L'ONF en profite pour rassurer ses hannetons n'ont aucun effet urticant sur l'homme. Une petite révolution pour les diabétiques. Une équipe de Caroline du Nord vient de mettre au point un patch à insuline intelligent qui calcule le taux de sucre dans le sang et l'ajuste automatiquement grâce à de micro-doses d'hormones. Les chercheurs assurent qu'ils pourront adapter les quantités selon la morphologie et la sensibilité à l'insuline du patient. Pour rappel, le diabète touche 387 millions de personnes dans le monde, un chiffre qui pourrait s'élever à 600 millions d'ici 20 ans. Et puis pour finir, des chercheurs américains ont séquencé l'ADN de 2000 bactéries trouvées dans les métros des grandes villes du monde et les résultats sont assez surprenants. 50% du matériel génétique de ces micro-organismes était parfaitement inconnu. Ces recherches pourraient aider à mieux comprendre et prévenir certaines proliférations bactériennes en milieu urbain. Contrairement aux idées reçues, les barres métalliques du métro sont moins contaminées que les sièges ou les poignées en plastique juste à côté. Une psychologie de la réalité virtuelle, c'est le dossier dans un instant.
Baby, please don't go down in happy right now. My baby leaving on that midnight train. And I'm crying.
Baby, please don't go, avec Them sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Quels sont les effets des écrans et du monde virtuel sur nos relations humaines? C'est le dossier de la tête au carré cet après-midi. Mes invités pour en discuter, Sylvain Missonnier, vous êtes psychanalyste, professeur de psychologie clinique de la périnatalité à l'Université Sorbonne-Paris-Cité. Vous êtes également vice-président de l'Institut du virtuel Seine-Ouest et vous publiez avec Santi Vlachopoulou « Psychologie des écrans » aux presses universitaires de France. Michael Stora, vous êtes psychologue psychanalyste, cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Et puis Jean-François Marmion, vous êtes rédacteur en chef du Cercle Psy avec un dossier donc dans le numéro actuellement en kiosque sur les effets pervers du net. Les messages arrivent déjà pour vous sur franceinter.fr et puis les messages courts également sur Twitter avec le mot-clé l'attaque. Sylvain Missonnier, on en parlait tout à l'heure, notre quotidien d'Homo sapiens est aujourd'hui peuplé d'écrans en tout genre. Notre environnement virtuel, c'est une composante majeure maintenant de notre vie relationnelle, éducative, professionnelle. C'est donc cette réalité virtuelle là qui vous a intéressé. Vous l'explorez en montrant justement ses répercussions sur notre psychologie. C'est vraiment pris en compte aujourd'hui dans votre discipline ?
Il y a à dire sur la partie vide du verre et sur la partie pleine. Alors, la partie vide est assez sévère, c'est-à-dire que les éducateurs, les psychiatres, psychologues et psychanalystes ont de gros efforts à faire pour bénéficier de travaux qui commencent maintenant à faire plus qu'émerger, à exister véritablement. Alors, c'est le cas depuis bien longtemps chez les anglo-saxons, et c'est vrai qu'il commence à y avoir un certain nombre de travaux francophones qui méritent d'être pris en compte.
C'est là qu'il y a un vrai décalage et un vrai retard, au fond, entre la prise en compte précisément de cette réalité et la façon dont ça nous imprègne au quotidien dans nos vies.
C'est la lettre cachée d'Edgar Poe, c'est-à-dire qu'elle est là en plein milieu, et elle... n'attend que d'être traité par les sciences humaines et trop peu s'y intéresse.
Est-ce que c'est une question de génération là aussi, dans votre discipline là encore? Est-ce qu'on peut imaginer que la nouvelle génération de psychologues va s'emparer sans aucun problème de ces questions?
Assurément, encore faut-il que les dinosaures à l'université ne fassent pas obstruction et soient dans un obscurantisme qui empêche que justement ces jeunes générations puissent explorer leur monde.
Et bien on les salue en tout cas, ces dinosaures, ils seront ravis de votre message.
Quand l'extinction des dinosaures.
Jean-François Marmion.
Oui.
Pour vous aussi, c'est effectivement ce décalage qui est assez sidérant au fond.
C'est sidérant. À la décharge des chercheurs, c'est pas facile non plus de faire des recherches sur un sujet pareil.
Nouveau.
Mettez-vous à la place de ceux qui voulaient étudier, par exemple, les adolescents blogueurs à la fin des années 2000. Il y a un phénomène qui a exercé. Le temps qu'on mette sur pied une recherche qui porte sur des milliers d'adolescents, qu'on puisse suivre au long cours sur ce paramètre particulier pendant des années, Twitter est apparu, le micro-blogging qui a changé tous les usages. Mmh. Et là, actuellement, alors qu'on s'interroge sur les effets du web 2.0 sur nos petits esprits, il y a déjà des expériences qui sont faites pour, par exemple, essayer de relier un cerveau à un autre par l'intermédiaire d'Internet. Fin 2014, il y a eu une histoire comme ça qui s'est jouée dans les couloirs de l'université de Seattle. C'est-à-dire que quelqu'un, avec un cocktail d'électroencéphalographie et de stimulation magnétique transcrânienne, a réussi à se brancher sur un jeu vidéo à distance et à manipuler le bras d'un autre joueur situé à 1 km. C'est-à-dire que actuellement, Internet nous permet de communiquer en temps réel avec n'importe qui, n'importe où dans le monde. Peut-être que dans 20 ans, on sera capable de communiquer avec un cerveau. Et peut-être que ça fait doucement rigoler en France. Ça fait pas rigoler du tout le ministère de la Défense américain. Mmh. Ça fait pas du tout rigoler Google, Apple, Facebook et même Amazon qui investissent des milliards là-dedans.
Michael Stora, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces nouvelles technologies, les écrans, le monde virtuel, tout ça, c'est une nouvelle part de notre identité.
C'est indéniable, évidemment, Et c'est vrai que pour rejoindre ce que disait Sylvain, au fond, les médias en général se sont avant tout intéressés aux peurs, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et donc nous, les chercheurs, c'est complexe parce qu'on a dû avant tout tenter de comprendre ces peurs. Donc on analyse les peurs, surtout en psychologie, pour essayer déjà de, pourquoi pas, saisir le virtuel en lui-même ou la pratique des adolescents sur la toile. Donc c'est vrai que là, finalement, on commence à voir avec l'Institut du virtuel, l'Observatoire des mondes numériques que j'ai cofondé il y a plus de 15 ans quand même, où il fallait absolument que des chercheurs, à un moment, essayent de étudier l'objet sans juger. Mmh. Et la plupart d'ailleurs d'entre nous au début, nous étions tous des joueurs parallèlement de jeux vidéo, et pour nous c'était important d'aimer même l'objet de notre étude. Et c'est vrai que en clinique, là, il est évident que beaucoup de collègues, il était important aussi qu'ils puissent prendre en compte la parole des enfants, des adolescents autour du virtuel, et peut-être même aller plus loin, c'est-à-dire faire de la thérapie online, faire toutes sortes de choses, utiliser les jeux vidéo, comme vous le savez, en médiation thérapeutique. Donc c'était important de ne pas être dans le déni, d'une certaine manière, de cette culture émergente.
Mmh. Sylvain Missonnier, une question autour du vocabulaire qu'on va employer d'ailleurs pendant toute notre discussion, parce qu'on parle de monde virtuel, mais est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui d'opposer précisément le monde virtuel au monde réel ?
Alors, si on est vraiment dans la reprise de la tradition philosophique et l'histoire des idées depuis la nuit des temps, ça n'a aucun sens, l'opposition entre le virtuel et le réel. Depuis toujours, depuis Aristote, le virtuel s'oppose à l'actuel. La graine contient virtuellement l'arbre. Et c'est vrai qu'on a besoin dans ces caisses à outils aujourd'hui, qu'on soit physicien ou qu'on soit psychologue, de cette conceptualisation de la potentialité, de la croissance pour l'humain. Donc au jour d'aujourd'hui, ce qui tient à cœur d'une psychologie du virtuel qui s'inspire de la psychanalyse, c'est la communauté entre la réalité psychique et la réalité virtuelle. Il semblerait que ces deux perspectives aient bien des convergences et des résonances qu'il est passionnant d'explorer.
Voilà, et l'influence justement des écrans du monde virtuel sur cette réalité psychique. Qu'est-ce qu'une psychopathologie du virtuel quotidien, s'il vous plaît ? Parce que psychopathologie, tout de suite on se dit « Oh là mon Dieu, mais c'est plein de maladies affreuses, voilà. De quoi on parle ?»
Alors, je vais poursuivre ce que disait Michael fort bien tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on a trouvé une ruse avec Xanti, que je salue, avec qui j'ai vraiment écrit cet ouvrage, on a mis patho entre parenthèses. Oui. C'est-à-dire une bonne façon de dire haut et fort qu'il n'y a de psychopathologie sérieuse que sur la base d'une psychologie sérieuse. C'est-à-dire qu'il faut d'abord et surtout que nous commencions par savoir qu'est-ce que ça nous fait, nous, de passer une journée quand on a oublié notre portable à la maison. Oui. Voilà. Et quand on a réfléchi là-dessus, après on peut aller voir ce qui va se passer chez ceux qui souffrent à travers la réalité virtuelle. Mais il faut commencer par s'explorer soi-même en partant du principe qu'on est névrotique au normal point moyen.
Un exemple très concret en tant que psychanalyste, on imagine un de vos patients qui arrive en séance et qui a oublié son téléphone portable. Vous considérez que ça va complètement modifier la séance ?
C'est un cadeau du ciel. C'est-à-dire qu'on va être véritablement dans une opportunité pour explorer ce que nous appelons, dans notre jargon qui va parler à tout le monde, les conflits de séparation.
Oui, bah c'est marrant parce que moi, je recevant pas mal d'ados, dernièrement, j'ai un de mes ados qui avait oublié d'enlever la fonction sonnerie. Ça a sonné et c'était sa mère qui appelait à un moment très précis de la séance. Et
magnifique.
Là, c'était aussi tout à fait amusant. Donc, c'est évident que l'introduction de ces objets numériques dans le cadre de nos séances, voire l'utilisation des objets numériques en situation clinique, est quelque chose de tout à fait intéressant. Et le terme de psychopathologie du virtuel au quotidien, qui est aussi un séminaire que Sylvain met existe à Paris 5, était important. Et on voit de plus en plus d'étudiants en psychologie qui eux-mêmes sont interacteurs de ces mondes-là, et ils ont besoin, c'est important, d'avoir un peu de distance.
Alors justement, Sylvain Missonnier, la psychanalyse qui s'intéresse dans sa pratique aux lapsus, aux actes manqués, elle n'est pas en reste à l'heure du numérique, parce qu'on parle aussi de cyber-actes manqués.
Écoutez, alors là c'est la corne d'abondance.
Mais ce sont nos claviers qui font des lapsus pour nous. C'est le correcteur d'orthographe qui fait un lapsus pour nous.
Vous savez, c'est comme dans les sables mouvants, plus on se justifie, plus on descend.
Non, mais je me fais la voix du diable.
Oui. Mais bon, Prenons l'exemple, c'est la période des étudiants à l'université qui ont leur mémoire à rendre. Bon, il y en a toujours chaque année 2-3 qui arrivent éplorés, et on peut le comprendre, ils n'ont pas fait de sauvegarde de leur mémoire et ils se sont fait piquer dans le métro leur ordinateur, leur tablette.
Leur clé USB.
Voilà. Donc maintenant, on parle de ça avec les étudiants dès le début de l'année. Mais on s'aperçoit chemin faisant, et c'est là que la clinique reprend ses droits.
Il y a un acte manqué, là?
Il n'y a pas deux humains pareils, et que l'angoisse de castration, c'est l'angoisse de castration, et que perdre à une semaine de la date fatidique son mémoire, eh bien, ça a du sens.
Ouais, Michael Stora.
Oui, je rajouterais que, au fond, à une époque où je me suis intéressé aux technophobes, souvent ils m'évoquaient avec des angoisses terribles lorsque tout d'un coup un message s'affichait, du style le support de votre carte mère est cassée, qui exigeait d'une certaine manière presque d'avoir un pouvoir et qui était ce qu'appellerait un de mes collègues ingénieurs au MIT le phallus numérique, c'est-à-dire véritablement d'avoir le pouvoir sur ces machines. Et c'est un peu ce qu'on découvre, puisqu'on sait que par exemple Google est quasiment dirigé par 10 phallus numériques, des ingénieurs informatiques, on va dire, qui finalement ont une pensée souvent très binaire.
Ce sont des psychanalystes 2.0 qui vous parlent au micro de la tête au carré. On voit la différence de génération avec les dinosaures que vous évoquiez tout à l'heure. Allez, les messages des auditeurs sur France Inter. Why can't you just love me? Should I move on? Or should I wait? And how'd you get so high above me? I reach higher every day. Nothing changes. No, it all just stays the same. Show you what it's like, but you will never come down, and I've been staying up at night to face the changes. Michel Montu qui vous prépare votre playlist des slows de l'été pour France Inter avec Tobias Gesso à l'instant et Without You.
La tête au carré sur France Inter.
Une psychologie des écrans, c'est un livre qui paraît aux presses universitaires de France. Sylvain Missonnier, vous en êtes l'un des auteurs avec Saint-Yves Lachaud-Poulou et puis également nos invités pour parler donc de l'impact psychologique du monde virtuel, Michael Stora et Jean-François Marmion avec le cercle psy et les effets pervers du net en kiosque actuellement, hein, Jean-François.
Ah, tout à fait. Ouais.
Vous avez rencontré justement des psychologues américains pour certains d'entre eux autour de ce thème?
Rencontrer, non, ça s'est fait de façon virtuelle.
Mais oui, mais c'est une rencontre virtuelle.
C'est une rencontre virtuelle. Oui, oui. Alors, le plus frappant peut-être, c'était Ryan Holiday. Il n'est pas psy, mais c'est quand même un expert en manipulation des médias en utilisant en priorité Internet. Et en fait, il n'y a pas franchement de nouveau dans les méthodes employées. On en revient aux vieilles méthodes que prônait déjà Salvador Dali. Il faut faire parler de soi, même en bien, mais en mal, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'il faut faire le buzz aujourd'hui, on dit. Bon. Alors lui, pour ça, il n'a aucun scrupule, par exemple, à se faire passer pour un expert. Mmh. Et c'est là où c'est intéressant, parce que les journalistes professionnels qui relaient sa parole dans n'importe quel domaine ne vont même pas sur Google vérifier qui il est. Parce que dans Google, il apparaît clairement « je suis manipulateur ». Bon, donc les journalistes américains utilisent à plus de 90% pour trouver leurs infos des blogs amateurs. Donc lui, il s'y prend comme ça. Par effet boule de neige, il frappe des petits blogs amateurs qui vont être repris par des plus grands sites, très vite sans vérification, et ensuite évidemment par les grands médias. Et alors le plus intéressant, c'est que il aime bien révéler qu'il a manipulé après. Il a dit « Ah, je vous ai bien eu ». Il révèle le poteau rose. Et à ce moment-là, ce qu'on lui reproche, c'est pas d'avoir menti, c'est de dire qu'il a menti. Il y a beaucoup de journalistes qui lui disent « Mais pourquoi vous rétablissez la vérité? C'était une bonne histoire, on avait beaucoup de buzz, les internautes étaient contents. Oui. » Et les internautes eux-mêmes, de plus en plus, finissent par dire « Tiens, on a manipulé, machin a gagné 100 000 $ grâce à nous, eh ben chapeau l'artiste, peu importe la vérité. »
Qu'est-ce que ça dit, ami Michael Stora, justement sur notre rapport à la, à la véracité des faits quand même, hein?
Ben, moi, je pense qu'Internet, c'est intéressant, repose la question de ce qui est vrai profondément, et je trouve que les journalistes blogueurs, donc qui sont souvent des gens sur place, d'emblée disent « c'est moi qui parle par rapport à ma subjectivité ». Et la prétendue objectivité des journalistes est remise en question. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, on peut se demander, finalement, avec Internet, si la vérité n'est pas un ensemble d'éléments qui n'ont pas forcément de lien direct et qui fait que, finalement, comme vous, ce qu'on appelle la web errance, qui fait que, finalement, au bout d'un moment, vous cherchez une info, mais vous allez sur toutes des infos qui n'ont pas de rapport direct. Et c'est peut-être là où se situe la vérité. Donc moi, je trouve qu'Internet repose la question dans sa pratique de ce que veut dire être vrai.
Nous parlons donc des usagers, évidemment, de ces outils. Certains en sont exclus, on va en discuter dans un instant. Et certains souhaitent s'en exclure eux-mêmes. Extrait des guignols de l'info avec Nikos Aliagas.
Nikos, ce soir, Canal+ propose un documentaire sur un journaliste, Pierre-Olivier Labbé, qui s'est privé d'Internet et de portable pendant 90 jours.
Oui, je l'ai vu et ça a été un terrible choc pour moi. C'était un documentaire bouleversant, Patrick Pellarbor. J'ai beaucoup pleuré en le regardant.
Ah oui, vous aussi, vous trouvez qu'Internet prend une place trop importante dans notre vie?
Une fois de plus, vous n'y êtes pas du tout, Patrick Sac de Sport. J'ai pleuré sur le sort de ce pauvre journaliste, coupé du monde numérique pendant 90 jours. Pour moi, c'est un suicide. Il s'est volontairement transformé en no-life en se coupant de la vérité du web. C'est tout simplement idiot.
Non, mais vous pouvez pas dire ça.
Bien sûr que si, Patrick Albator. 90 jours sans Internet, vous rendez compte de toutes les informations qui lui ont échappé?
Oui, enfin,
cet homme ne sait pas qu'IM a fait une tentative de suicide. Il ne sait pas que Kim Kardashian a eu un accident de voiture avec sa sœur Chloé.
Enfin, c'est pas primordial non plus.
450 000 retweets pour IM, c'est plus que pour la naissance des jumeaux d'Albert de Monaco.
Mais vous pensez pas que c'est justement un moyen de revenir à l'essentiel en évitant le flot d'informations déversé par Internet tous les jours?
Pardon de vivre avec notre temps, Patrick Coupé-Sport. Si vous n'êtes pas content, ressortez votre vieux Minitel. Envoyez des télégrammes et dressez des pigeons voyageurs pour communiquer avec vos amis.
Voilà, Sylvain Missonnier. Donc il y a deux choses, hein. Il y a effectivement les personnes exclues du virtuel, on va en parler, et puis ceux qui souhaitent un jour arrêter pendant un temps donné. Est-ce que vous vous en rencontrez via votre divan régulièrement ou pas? Ou vous sentez vraiment un ras-le-bol de l'usage de ces outils?
Écoutez, je vais commencer par évoquer un certain nombre de hauts responsables dans des entreprises qui considèrent maintenant très clairement que commencer une journée par une heure et demie de mail, c'est vraiment pas la meilleure façon. et que donc ils se tiennent tout à fait soigneusement à l'écart de cette méchante pratique. Je dis méchante pratique parce qu'un certain nombre d'entre nous commencent à percevoir effectivement ce que ça représente comme lourdeur, comme pesanteur.
Donc il y a saturation. Hein.
Voilà, il y a saturation. Et c'est intéressant de voir qu'un certain nombre se dégage de cela pour être vraiment dans une réflexivité plus sereine. Hein. Mmh. Bon, donc là on parle du monde du travail au quotidien et la souffrance au travail a maintenant de plus en plus de liens avec le blues quotidien sur les mails.
Ah oui. Donc vous faites un lien direct. Hein,
assurément, ouais. Assurément, parce que le trop est l'ennemi du bien. Mm-hmm. Et qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, un certain nombre d'individus sont confrontés à une surenchère, à un nombre de mails qui est authentiquement intraitable. Bon. Et là, donc, on parle d'équidam dans les entreprises. Bon. Alors, maintenant, on peut aussi imaginer qu'un certain nombre d'individus qui sont confrontés à cette démesure absolue, puissent se sevrer de cela. Et j'utilise le terme de sevrage à dessein, vous comprenez bien.
Volontairement.
Qui en filigrane là quelque chose de l'ordre de l'addiction.
Oui.
Bon. Et donc, vouloir prendre de la distance à l'égard d'un usage complètement fou de ce type d'outils numériques, ça peut avoir du sens. Et j'ai vu un certain nombre de patients qui, au décours de leur psychothérapie, réformer, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux dans une thérapie qui marche, un certain nombre d'axes majeurs de leur existence.
Dont leur usage
aux écrans. Des écrans dont on pourrait dire, pour le formuler de manière générique, que ce sont des miroirs extrêmement fidèles de qui nous sommes et de ce qu'il en est de notre réalité psychique.
Et qu'est-ce que ça dit justement le fait de vouloir s'en écarter alors ?
Eh bien, si ça vient chez un sujet signifier qu'il prend conscience de l'envahissement et de la démesure impérialiste dans son fonctionnement de cet usage, on peut imaginer que ce soit une autocritique qui est tout.
D'accord.
Qui
et c'est aussi mettre un voile sur le miroir. Alors,
tout à fait. Hein. Alors après, l'extrémisme dont il est question dans Les Guignols, je pense, montre aussi les limites d'une pensée en tout ou rien. L'enjeu, c'est le tempérer, c'est un équilibre suffisamment harmonieux à l'abri des extrémismes du tout ou rien.
Michel Sora, on vous voyait apparaître d'ailleurs dans le documentaire évoqué par Nikos Aliagas dans cet extrait des Guignols.
Oui, bah alors c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on sait que les journalistes eux-mêmes sont souvent accros au fil d'informations et d'autant plus les pigistes. Moi, je me suis à un moment vraiment spécialisé, j'ai reçu plus de 200 jeunes, j'ai écrit des livres et des articles sur cette problématique d'addiction qui, comme vous le savez, la communauté scientifique ne le reconnaît pas en tant que concept, aussi bien le DSM-5 que l'Académie des sciences et de médecine en France. Maintenant, moi, ce que je trouve passionnant et intéressant, c'est, comme disait Olivier Einstein, quand on a affaire à une forme de nouvelle addiction, réfléchissons en termes de produits, consommateurs et société. Et cette forme d'addiction, pour moi, est très révélatrice du mal-être et du malaise dans notre civilisation, culture de la performance, de la réussite à tout prix. Et les jeunes que je rencontre tombent en dépression parce qu'ils ne sont plus en adéquation. Après, il est évident qu'il faut imaginer, mais le fait de nier le fait que ça existe en tant que pathologie, peu importe l'étiquette, mais c'est aussi un déni du fait qu'il y a une souffrance derrière chez ces jeunes-là. Et c'est là où je trouve qu'il y aurait quelque chose à pouvoir mener comme combat, c'est-à-dire une forme de reconnaissance que l'addiction au numérique puisse exister.
Ouais. Damien nous dit ceci, est-ce qu'il y a des études réalisées pour prouver qu'il y a une corrélation entre le fait que l'on devient de plus en plus narcissique et l'essor des nouvelles technologies ? Sylvain Missonnier ?
Alors, Il y a deux plans. Le clinicien que je suis se méfie comme de la peste des généralités. Ce que j'aime dans mon métier au quotidien, c'est le cas singulier, le cas particulier. Il n'y a pas deux humains qui ont les mêmes empreintes digitales, il n'y a pas deux humains qui ont la même réalité psychique, et il n'y a pas deux humains qui ont le même rapport aux outils numériques. Bon, mais quand même, un certain nombre de recherches ambitieuses manquent cruellement à l'échelle française. Je prends par exemple le cas de l'avis qui a été donné récemment par l'Académie des sciences. Eh bien, je crois qu'elle comporte un certain nombre de recommandations qui me paraissent assez imprudentes parce qu'elle ne repose pas suffisamment sur des études de
sur
qualité.
Sur l'usage ?
Oui, sur l'usage. Et donc, je suis là en train de lancer un appel et, aux universitaires et aussi aux praticiens pour qu'il y ait une mobilisation, pourquoi pas autour de l'IFSO, pour que des études françaises, européennes, de qualité puissent advenir.
Donc l'Institut du virtuel Seine-Ouest, Jean-François Marmion.
Oui, pour qu'il y ait de telles études en France, il faudrait déjà qu'il y ait un soutien des pouvoirs publics. Or, je ne crois pas que depuis une vingtaine d'années qu'il y a le web, que le web se dissémine dans nos foyers, je ne crois pas avoir vu un secrétaire d'État, un ministre, encore moins un président de la République avec un ordinateur sur son bureau. Quand ces messieurs dames se mettent en scène, c'est avec un porte-plume sur un cahier et des dossiers sous le bras.
Oh, comme si c'est un porte-plume, vous exagérez un petit peu.
Bon, un stylo bille. Bon, non, vraiment. Alors qu'Angela Merkel a un ordi dans son bureau, par exemple. C'est peut-être de la mise en scène, mais ça en dit long. Mm-hmm. Premièrement. Deuxièmement, si on veut éduquer les enfants, les ados, à un meilleur usage plus tempéré des écrans, il faudrait peut-être déjà éduquer les parents aussi. Parce que c'est pas dans la poche. Quand vous pensez que je crois 4 ou 5 Français sur 10 ont la télé qui tourne en permanence, qu'ils la regardent ou pas, le premier réflexe en arrivant chez soi, c'est d'allumer la télé même si on la regarde pas. Comment voulez-vous que les parents, ces parents-là soient crédibles déjà pour dire à leurs enfants, écoute, tu regardes pas trop la télé, tu vas pas trop sur Facebook, tu fais des devoirs d'abord, sois dans la vraie vie d'abord.
Donc de l'éducation.
Bah de l'éducation, mais moi, par qui ?
Pas tout le monde. Michel
Juste,
Stora.
Je me permets de réagir à ce qui a été évoqué.
Sur le narcissisme.
Le narcissisme. Bon, moi, c'est des questions qui m'intéressent énormément. Moi, j'ai l'impression que les réseaux sociaux viennent révéler une problématique préexistante, comme celui du narcissisme. Et ce qu'on observe, et rappelez-vous, le narcissisme est une fragilité. Et donc, on voit bien que les gens vont chercher de manière parfois créative ou moins créative, dans ces mondes-là, une récompense narcissique.
Allez, on se retrouve dans un instant. Dernière partie de notre discussion et toujours les messages et les témoignages des auditeurs franceinter.fr. C'est le monde virtuel.
Les mégots qui fument, les éclats des verres, je voudrais l'alcool fort. Zeste de vie dans l'élévator, une blonde du parking,
plus longue, chaussures de sport,
le genre disco queen, un simple Mona, à danser en street,
maquillé comme l'un de Palma.
Les étages filent, je la déshabille dur car elle me dit no way. Son âme indocile, quand elle se mutile, l'argent sur la table,
et ce silence d'après vinyle.
Mon nom sur la glace, ses pas au poignet, ne sera pas plus classe.
Quand il prend son ombre à craie,
ici, la vie, c'est
éclairé par un incendie.
La sirène brille, et je me rhabille du regard, elle me dit non. Voiture pile les gyrophares en 5 ou 6 nuances de noir. Et dans un miroir, quelque chose de toi qui repasse. 6 nuances de noir, quelque chose en moi qui se casse. Et dans un miroir.
Silence, et c'est Arcadin sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Psychologie des écrans, troisième et dernière partie. Sylvain Missonnier, psychanalyste, tout comme Michael Stora, sont mes invités avec Jean-François Marmion, le rédacteur en chef du Cercle Psy. Les messages des auditeurs. François nous dit ceci, c'est une question. Est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de consultations face aux sentiments de mal-être ressentis en ligne, Michael Stora?
Alors, on va dire que non, pas forcément. Les gens ne viennent pas. Moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit voilà, je n'ai plus de feedback, de moindre commentaire. Mais par contre, c'est évident qu'on se rend compte que certains sites comme Facebook, d'ailleurs, est assez dépréciogène. Parce que vous avez pu remarquer, les gens sont tellement heureux. Il suffit qu'on traverse une phase où la baisse d'estime de soi baisse. On est renvoyé à une impuissance totale. Donc, c'est vrai qu'il y a, on peut s'interroger comment la configuration de certains sites peuvent, paradoxalement, nous déprimer.
Solveig nous dit ceci, est-ce que ça serait pas le net qui a développé l'absence de vrais contacts humains, qui apporte de la souffrance dans notre société, Sylvain Missonnier?
Ça a été dit, mais n'hésitons pas à le reformuler. Nos usages des écrans et de l'Internet révèlent qui nous sommes, individuellement et collectivement. Donc, c'est une figure que nous avons beaucoup utilisée avec Xanthi dans ce livre, c'est la figure du pharmacon grec. Hein, c'est-à-dire, on retrouve les mêmes ingrédients dans le remède et le poison. Tout est affaire de contexte et tout est affaire de dosage. Donc, c'est l'intérêt d'avoir un point de vue qui n'est pas généraliste, mais qui est ciblé sur l'individu.
C'est ce que vous dites pour les addictions, par exemple, aux jeux vidéo.
Voilà.
Dans les cas extrêmes, en tout cas d'addiction, ça révèle simplement une tendance qui préexistait déjà, a priori.
Voilà. Et de l'absurdité de dire tel enfant joue 2 heures par jour, donc il est complètement en danger. Il y a des enfants et des adolescents qui jouent 2 heures par jour et qui vont très bien dans leur basket, si vous me permettez l'expression. Oui. Et il y a des enfants qui jouent 2 heures par jour et qui sont en dépression.
Extrait du film Men, Women and Children de Jason Reitman en 2014. Le film qui raconte le portrait de lycéens et de leurs parents qui justement doivent affronter l'impact des nouvelles technologies sur leurs rapports.
Qu'est-ce qui est important dans votre vie aujourd'hui?
Mon père aimerait que je joue au football.
Et qu'est-ce que vous pensez du football?
J'en sais rien, pour moi c'est juste pas utile.
Alors, dites-moi un peu, quelle chose vous semble utile?
J'en sais rien, je joue beaucoup à Guild Wars.
C'est un jeu sur Nintendo?
Non, c'est un MMORPG. On est plein, des millions de gamers online. C'est simplement un jeu de rôle en fait.
Et vous êtes sûrement très bon à ce jeu, j'imagine.
Ouais, je crois. C'est pas vraiment une histoire de compétences, ça dépend plus du temps qu'on reste dessus.
Et ces gens que vous appelez des gamers, c'est des gens que vous connaissez, des copains d'école?
Oh non. Des amis, c'est beaucoup dire, c'est seulement... Dans le jeu, je les ai jamais rencontrés IRL.
IRL?
In real life, dans la vraie vie.
Vous avez des amis dans la RL?
Non. Avant, j'avais des tas d'amis, mais quand j'ai laissé tomber le football, c'est eux qui m'ont laissé tomber.
Michael Stora, ce film Men, Women and Children, vous en avez parlé d'ailleurs au moment de sa sortie l'année dernière, ce portrait donc assez particulier de lycéen qui se coupe du monde réel, hein, précisément.
Oui, et puis c'est un excellent film sur le rapport parent-ado à l'ère du numérique dans une petite ville du Texas, mais qui existe aussi en France. Lorsqu'on va un peu plus profondément, on se rend compte dans cette histoire qu'on n'est pas accro à l'écran, mais on est accro à l'autre, à cet autre virtuel qu'on ne connaît pas forcément, ce qui amplifie la relation affective. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui, vous savez, qui sont dans les dépendants affectifs et sexuels, qui m'ont évoqué que depuis l'avènement d'Internet, les files actives sont beaucoup plus importantes. Mmh. Parce que justement, on voit bien que ça vient amplifier un phénomène.
Ouais, c'est ce que vous appelez les e-groupes aussi, Sylvain Messonnier, précisément, sur le net.
Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire que...
La communauté du net.
Tout à fait. Et un certain nombre de spécialistes du groupe... effectivement, ont avec le paysage Internet des objets de recherche tout à fait formidables. Je pense par exemple, parce que je travaille en périnatalité, à Maman Blues. Bon, c'est un site Internet, c'est un forum où des mères qui dépriment avant ou après la naissance peuvent dialoguer ensemble. Et là, il y a une perspective humaniste qui est vraiment à prendre en compte et que là aussi, les pouvoirs publics devraient pouvoir assimiler.
Voilà. Bon, un exemple d'avantage, on peut dire, du monde virtuel.
L'autre jour à Necker, on rencontrait des parents dont l'enfant présentait une maladie extrêmement rare. Ses parents, avec un sourire qui faisait vraiment plaisir à partager, nous ont dit qu'ils étaient maintenant désormais en contact avec des Australiens dont l'enfant avait la même maladie.
Jean-François Marmion, dans le Cercle Psy, vous proposez un entretien avec la psychologue Chéri Torkel autour des solitudes en réseau. Et cette psychologue, justement, se demande pourquoi certaines personnes préfèrent la technologie aux relations sociales, pour rejoindre l'extrait du film qu'on vient d'entendre.
Oui, elle a sorti un bouquin qui s'appelle « Seul ensemble, de plus en plus de technologies, de moins en moins de relations humaines ». Alors pour elle, il semble qu'on multiplie les relations virtuelles, superficielles, celles qu'on peut démarrer interrompre, supprimer à tout moment d'un clic sans conséquences majeures. Et parallèlement, on s'investit de plus en plus dans les objets, dans les smartphones, les tablettes, mais aussi dans les robots. Alors on nous promet depuis des années que les robots vont déferler dans notre quotidien. Apparemment Bill Gates le veut, alors ce que Bill Gates veut, bon, on verra bien. En tout cas, les robots sont conçus maintenant non plus seulement pour faire croire qu'ils sont intelligents, mais il y a des programmes pour faire croire qu'ils sont affectueux. Oui. Des robots programmés pour être sympathiques et pour nous aimer. Sûr, ouais. Donc, ça veut dire que ce qu'on perd en humanité d'un côté, avec des vrais gens, on pense le gagner de l'autre avec des machines programmées pour nous dire « tu es fantastique, tu ne m'as pas déçu », etc.
Auquel on peut s'attacher, d'ailleurs.
Auquel on peut s'attacher, bien sûr.
C'était fait cette réflexion avec la série Real Humans, par exemple, avec ces robots qui rentraient vraiment dans la famille et dont on pouvait carrément tomber amoureux. Enfin, vraiment, on était très attachés à ces personnages. Sylvain Missonnier, pour réagir là-dessus.
Oui, un petit mot sur Sherry Turkle, parce que je crois que tous ceux qui s'intéressent à la réalité virtuelle ont bien compris qu'on avait là affaire à une pionnière authentique. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'on peut observer que dans ses premiers livres, elle était vraiment une chantre de ce que Internet et les réseaux et l'ordinateur peuvent amener de positif pour l'humain et la communauté, et que c'est intéressant de voir que aujourd'hui elle est plutôt dans la part obscure de la force. Hein. Et pour moi, entre les deux, il y a quelqu'un qui est passé complètement inaperçu, mais qu'on a néanmoins traduit dans un bouquin qui s'appelle Psychanalyse du net, qui s'appelle Michael Sivin, et qui lui a été le premier à dire ce qui est pour moi le fond. Le plus important, c'est-à-dire, encore une fois, c'est le refrain, ça dépend de chacun. C'est-à-dire qu'il y a véritablement des usages qui sont complètement aliénants pour certains humains, et puis il y a des usages qui sont rédempteurs, et il y a tous les gris entre ce noir et ce blanc. Et donc, quand un grand chercheur sort comme ça de l'anonymat pour dire c'est bon ou c'est mauvais, ça me semble être une réduction de la complexité qui est ça dépend de l'âge du capitaine, du vent et de mille
c'est
autres
la singularité
choses.
Qui vous voilà. intéresse. Vous
oui, juste pour Michael réagir, c'est vrai, j'ai toujours pensé en effet que la question que Internet vient révéler. Mais par contre, quand on commence à s'intéresser à la manière dont certains sites sont construits, leur configuration, ce qu'ils proposent, Twitter à travers ses 140 signes qui nous obligent d'une certaine manière à condenser, est-ce qu'ils ne nous rend pas avant tout une sorte d'un point de vue pulsionnel, digital au fond, qui fait qu'on a du mal à avoir le temps d'élaborer. Heureusement, il y a des espaces qui sont souvent beaucoup plus créatifs, mais là, sert souvent
c'est
les configurations.
Ça, c'est une vraie modification aussi de notre psychisme, quand même.
Peut-être.
Dans l'expression d'une idée ou d'une information.
Alors, le roi Gourand, il y a très longtemps dans le geste et la parole, le roi Gourand a montré quelque chose qui est fondamental à l'ère des neurosciences aujourd'hui, c'est que l'outil modifie le cerveau et le cerveau produit l'outil. Mais il y a une interaction subtile et permanente entre l'homme et l'outil, ça marche dans les deux sens.
Ouais. Sylvain Missonnier, pour terminer, il y a plein de nouvelles questions qui émergent justement autour de l'usage de ces nouveaux outils. Parmi les questions peut-être les plus inattendues, la question du deuil à l'ère du numérique, hein. On n'a pas le temps de le développer très longtemps, mais vous l'évoquez dans votre livre, c'est quand même très intéressant. Qu'est-ce qu'il advient de nous après notre mort et qu'est-ce qu'il advient de nous sur le net?
Mais oui, c'est-à-dire que vont devenir mon blog et mon site internet après la mort? Je crois qu'on est nombreux maintenant à imaginer qu'on va téléphoner à notre fournisseur d'accès et un jour de grand luxe s'offrir la possibilité d'être hébergé pour les 50 ans qui viennent, aller au diable l'avarice. Bon, ce que j'aimerais dire, parce que là,
de concession virtuelle, quoi.
Il y a des cimetières virtuels.
Il y a des cimetières virtuels, tout à fait. Ce que j'aimerais dire, peut-être au-delà de ce qui va vraiment changer très rapidement, c'est qu'on trouve là la problématique anthropologique fondamentale dans la réalité virtuelle. C'est la question de la finitude humaine et la question de la présence de l'autre.
Michael Storr, pour terminer très vite.
Oui, très rapidement, j'ai envie de dire, ayant reçu beaucoup de ces jeunes qui souvent sont en dépression, ils évoquent souvent que pour eux, la mort apparaît lorsqu'ils éteignent l'ordinateur. Et non pas lorsque leur avatar meurt, parce que nous sommes dans un monde aussi où on peut perpétuer une sorte de toute puissance de la vie.
Allez, Psychologie des écrans, donc c'est aux Presses universitaires de France dans la collection Que sais-je. Et puis les effets pervers du net, c'est un angle en tout cas, que vous proposez dans le dernier numéro du Cercle Psy, actuellement en kiosque Jean-François Marmion. Merci beaucoup.
Merci.
À tous les trois. Il est bien réel, c'est Fabrice Drouel.
Oui, qui va vous parler. Bonjour.
Bonjour, cher
ami. Parlez-moi à la troisième personne, ça va pas mieux. Bon, je vais vous vous parler d'un... C'est pas un jeu vidéo, c'est une vraie bataille qui existait en politique entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret, la scission au Front National. Et nous recevons...
Ah, vous faites des duels, vous aussi, maintenant.
Des duels, alors. Voilà. Nous recevons Dominique Albertini de Libération, notre partenaire. Mm-hmm. Il a écrit un livre intitulé « Une histoire du Front National ».
Et c'est dans un instant, après les infos. À tout à l'heure.